Eh bien, bonjour à tous. Et puis, avant de commencer, je voulais remercier l'ensemble des organisateurs de cette journée de m'avoir permis de venir vous présenter cette communication intitulée La construction de référentiels pour l'étude de l'artisanat du verre celtique, l'histoire d'un défi technique. Et cette communication, finalement, vous allez le voir, fait assez écho à la communication précédente, avec cette idée que finalement, à travers la mise en place de référentiels de gestes, de référentiels techniques, on arrive à avoir de très nombreuses informations sur les sociétés du passé. Et cette présentation que je vous fais aujourd'hui, je l'ai intitulée Histoire d'un défi technique, parce que finalement, quand on a commencé à travailler sur ce référentiel de gestes, on ne s'attendait pas du tout à aller aussi loin dans l'apprentissage sur un artisanat ancien, en commençant tout simplement à se poser des questions sur les techniques et les façons de faire. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous faire une petite introduction rapide sur l'histoire du verre et plus particulièrement l'histoire du verre à la proto-histoire et au premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, le verre, c'est un matériau qui apparaît vers 1500 avant Jésus-Christ et qui est un matériau de synthèse qui mélange différentes matières premières. Et ce matériau de synthèse, il va être principalement utilisé au deuxième et premier millénaire avant Jésus-Christ pour la fabrication de perles et d'ornements, parce qu'il va d'abord se travailler sous sa forme filée, étirée, et il faudra attendre le premier siècle avant Jésus-Christ et la période romaine pour que quelqu'un ait l'idée qu'on puisse faire des bulles avec le verre et qu'on puisse travailler le verre sous forme de bulles. Donc avant cette invention du verre soufflé, le verre, c'est un matériau qui se travaille par étirement. On va avoir quelques premiers récipients en verre qui sont moulés sur noyaux d'argile, ou ici aussi des récipients moulés. Et dans ce répertoire réduit de formes, on va s'intéresser à un objet qui apparaît au 5e siècle avant notre ère et qui est un nouvel objet, vraiment, un nouvel objet qui est le bracelet en verre. Alors le bracelet en verre, il nous intéresse particulièrement parce que c'est une invention du monde celtique et on le voit très bien lorsqu'on étudie la carte de répartition des bracelets en verre. Ces objets appartiennent au monde qu'on appelle la culture du Latène, au second âge du fer. Ils apparaissent donc au 5e siècle et vont être au 5e siècle avant Jésus-Christ et vont être fabriqués en Europe continentale uniquement, puisque ni les Égyptiens, ni les Grecs, ni les Romains n'ont jamais fabriqué de bracelets en verre. C'est un objet typiquement celtique. C'est un objet qui va marquer la culture celtique, mais qui est très intéressant pour nous aussi, parce que c'est un objet qui va finalement nous permettre de pister cet artisanat du verre l'athénien qui se développe au second âge du fer. Donc un marqueur culturel, un marqueur spatial, mais aussi un marqueur chronologique des sociétés celtiques, puisque ce bracelet en verre, il va évoluer au gré des goûts, au gré des modes, pendant tout le second âge du fer, et avec lui aussi dans cet artisanat, tout un système de perles qui lui aussi, voilà, typologiquement évolue. Donc, les traces de cet artisanat, je vous le disais, on a les bracelets en verre, on est sûr que c'est un objet, que c'est un artisanat celtique qui se développe. Et cet artisanat celtique qui se développe, il va utiliser une matière première qui, elle, vient d'Orient. On a quelques traces de cette matière première, on découvre sur certains sites celtiques des fragments de verre brut, mais on a aussi notamment trois épaves qui se sont échouées en Méditerranée avec des cargaisons de verre brut. Mais c'est bien sûr l'archéométrie et les analyses des verres anciens de l'Antiquité qui nous montrent les origines proches orientales de ce matériau fabriqué en Égypte et sur les côtes syro-palestiniennes. Les Celtes utilisent donc une matière première exotique pour un artisanat du verre qui va se dédier uniquement à la production de parures et qui va trouver son utilité dans la distinction sociale des individus et la compétition. Alors, donc voilà, vous avez fait un petit peu le tour de ce que c'est que l'artisanat du verre celtique. Et finalement, bah, on a la matière première, on a les objets finis, mais aujourd'hui, aucun atelier de verrier celtique n'a jamais été retrouvé en Europe. on a la matière, on a les objets, et entre les deux, finalement, tout ce qui va nous permettre d'approcher le contexte de production, la valeur des objets et les artisans lui-même, on ne les a pas. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur ces objets, je me suis posé cette question de d'approcher justement cet artisanat, ces ateliers, et de s'interroger sur comment, par qui et avec quels moyens ces objets furent-ils fabriqués. L'objectif, bien sûr, c'est d'approcher les artisans qui les ont fabriqués, leur statut, leur spécialisation, mais aussi en interrogeant les moyens, en s'interrogeant justement sur la dépendance au reste de la société, l'insertion dans la société de ces artisans, et de comprendre tout simplement la place sociale des artisans, mais aussi des parures. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur ces objets, il y a une petite dizaine d'années, j'ai fait le travail que tous les archéologues font, c'est que pour approcher les techniques de ces objets, j'ai commencé par faire de la bibliographie. Et dans la bibliographie, j'ai réalisé assez rapidement qu'il y avait tout et n'importe quoi sur les techniques de fabrication associées à ces objets. Sur les objets même, finalement, encore plus que pour la céramique, le verre est un objet qui enregistre très peu les différentes étapes de sa fabrication, puisqu'il va fusionner, se lisser, et à la fin, on a presque très rarement, voire de façon exceptionnelle, des traces qui vont être liées à ces étapes de fabrication. Donc, si dans la bibliographie, je n'avais pas d'informations, si les objets eux-mêmes ne nous parlaient pas sur leur technique de fabrication, je me suis dit naïvement, on va aller demander à des artisans verriers actuels, contemporains, comment est-ce qu'on peut fabriquer un bracelet en verre. Donc, je me suis associée avec deux artisans verriers que je vous présente ici, Stéphane Rivoal et Joël Kless, et je leur ai demandé, pour vous, comment est-ce qu'on peut fabriquer un bracelet en verre. Et cette simple question devait se terminer en 3 semaines d'expérimentation. Et pour vous résumer un petit peu la problématique, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on travaille ensemble autour de cette question qui s'est avérée beaucoup plus complexe que prévu. Joël et Stéphane sont des souffleurs de verre. Ils ont une tradition verrière qui est celle du soufflage. Et le travail du verre tiré, filé, finalement, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de leur tradition technique. Donc, la première fois que je les ai vus, ils m'ont proposé cette technique que je vous présente ici à l'écran, qui était l'idée, pour faire un bracelet en verre, on va prendre un cylindre et autour de ce cylindre, on va enrouler un cordon de verre chaud. Donc, c'est ici l'idée, on met en rotation ce mandrin qui est ici en métal, ici en céramique. Et logiquement, si on enroule du verre autour d'un mandrin, ça fait un anneau. Alors oui, ça fait un anneau, mais systématiquement, on se retrouvait avec des anneaux qui présentaient une soudure visible à l'endroit où le cordon se refermait. Je n'ai jamais vu de bracelet en verre celtique qui présentait une telle soudure. Après discussion avec eux, on a réalisé rapidement qu'on était dans une impasse technique assez inattendue. Et comme je vous le disais, on a ici deux verriers qui sont issus d'une tradition technique du soufflage, une tradition européenne. Et en Europe, aujourd'hui, plus personne, en tout cas à ce moment-là, plus personne ne fabrique de bracelets en verre. Donc, je me suis dit peut-être qu'ailleurs dans le monde, on a des artisans verriers qui ont encore une tradition technique de fabrication de bracelets en verre. Et donc, on a recensé la documentation ethnographique sur des fabricants de bracelets en verre. Et on a encore aujourd'hui quelques endroits dans le monde où le bracelet en verre sans soudure visible se fabrique. Au Népal, en Inde, au Nigeria avec les artisans de Bida et aussi quelques artisans en Palestine qui sont recensés. Donc, on avait heureusement quelques verriers qui avaient cette tradition technique de la fabrication de bracelets en verre sans soudure visible. Donc, on a réussi, grâce à ces artisans, à trouver la technique pour fabriquer un bracelet en verre sans soudure, et que ce soit au Népal, en Inde ou au Nigeria, la technique de fabrication pour fabriquer un bracelet en verre sans soudure, elle consiste à fabriquer une perle et à l'agrandir progressivement. Alors comme ça, ça a l'air très simple, et du coup, je vous mets quand même une petite vidéo pour qu'on comprenne un peu la complexité de cette fabrication. Est-ce que ça passe pour vous ? On va dire que oui. Alors, ici, on est dans un atelier de verrier qui est à Arcueil. Vous reconnaissez l'artisan Joël Kless. Dans le four, vous avez des creusets. Et donc, là, il a cueilli du verre. Donc, il a pris du verre dans le creuset. Et il va enrouler ce verre autour de son second outil, cette tige métallique, pour fabriquer une perle. Donc vraiment, l'enroulement du verre autour d'une tige métallique, c'est un peu la base de l'artisanat du verre. On fait une perle, on enroule, et c'est pour ça qu'à l'âge du bronze, ça commence. C'est finalement quelque chose qui peut être assez très vite compris, comment utiliser cette matière pour fabriquer une perle. Donc ici, on a... une frappe du ferret aussi, vous voyez, il va frapper sur son ferret parce que ça va lui permettre de détacher le verre du métal. Le verre et le métal collent. Et à partir de là, une fois la perle décollée, il va pouvoir insérer à l'intérieur de la perle un second outil qui va aller tirer le verre, exercer des pressions pour agrandir progressivement cet anneau. Toute la difficulté de ce geste, elle est dans l'équilibre de la masse, parce que le verre, vous le voyez, on est en rotation ici sur cette main gauche constante de l'outil pour jouer avec la gravité, la force centrifuge et éviter cette déformation de l'anneau qu'on ne veut pas. Et donc, ce geste-là, finalement, c'est un véritable coup de main. Et ce coup de main, bah, même encore aujourd'hui, après 10 ans d'expérimentation, on ne l'a pas aussi facilement que les artisans verriers du Népal ou du Nigeria. Alors on a adopté dans notre expérimentation et dans notre chaîne opératoire cet outil qui est le cône, qui est un outil utilisé en Inde et qui va permettre voilà, de faciliter la production en contrôlant mieux l'agrandissement et l'élargissement de l'anneau. Et même en Inde, c'est finalement un outil qui est introduit il y a seulement 200 ans pour faciliter la production et surtout permettre de l'accélérer. Donc je passe un petit peu parce qu'on n'a pas trop de temps aujourd'hui, mais l'idée c'est donc de remonter le bracelet jusqu'au bout du cône où on obtient un bracelet, vous voyez, tout simple. Et assez, voilà, un bracelet tout simple. Je retourne à mon petit PowerPoint. Donc, on a comme ça travaillé sur ce coup de main, sur ce geste à acquérir. Et finalement, c'est vraiment parce qu'on avait un artisan verrier qui connaît les propriétés du verre, qui connaît la façon dont ils vont réagir, qu'il a, parce qu'il avait déjà finalement des savoir-faire dits idéatoires, qu'il a pu acquérir ce coup de main. Mais là, ce que je vous ai montré, c'est les bracelets simples. Et le problème, c'est que simple n'est pas gaulois. Pendant tous les 500 ans de production de l'artisanat du verre, les Gaulois ont aussi développé tout un répertoire décoratif autour de ces objets. Et on a dû donc mettre en place un référentiel technique, un référentiel de gestes, qui allait correspondre à chacun de ces types décoratifs qui, comme vous le voyez, vont se diviser en fait en plusieurs groupes. On a les décors de points, les décors de bourgeons, les décors de côtes parallèles, de petits carrés, de filets ajoutés, de spirales, de bracelets transparents avec des fonds jaunes que vous voyez ici, et parfois voilà, des combinaisons. Donc ça, ça a été un travail finalement de longue haleine. Et il nous a fallu comme ça faire des allers-retours constants entre objets archéologiques et expérimentation pour comprendre les différentes techniques mises en place derrière les décors. Donc là, je vous montre la mise en place des décors de côte. Il nous a fallu 4 ans pour comprendre qu'un simple couteau suffisait à la mise en place de ces décors. Et que là encore, bah, c'est finalement une bonne maîtrise de la chaleur du verre, de ses réactions et aussi de l'espace géométrique du bracelet qui vont permettre de gérer ce type de décors-là. On a ensuite tous les décors de fil hein, là, qui se mettent en place dès le 3e siècle avant Jésus-Christ sur ces objets. où l'idée, là, c'est d'aller attraper un petit peu de verre et d'aller dessiner sur la pièce le décor voulu. Ce décor de fil, ils vont se multiplier au deuxième siècle avant Jésus-Christ et surtout s'affiner. Donc, on a des décors de fil posés en zigzag, comme ça, qui vont parfois faire 12 allers-retours sur moins d'un centimètre. Et là, finalement, ce qui va faire notre capacité à imiter ces décors-là, c'est l'habileté du verrier, je dirais l'entraînement, la main, le geste. Et aujourd'hui, on n'est pas encore capable d'avoir cette habileté qu'on voit et qui est désormais perceptible grâce à la mise en place de ces expérimentations sur ces objets. Donc voilà, au bout de 10 ans d'expérimentation, finalement, toute cette mise en place de ce répertoire de gestes, ce référentiel, il nous a permis aussi de relire les objets celtiques, de les voir différemment, et la réalisation de certains types, comme celui-ci, apparaît désormais comme des chefs-d'œuvre techniques de l'art celtique, puisqu'on a ici la combinaison très complexe de plusieurs techniques de décoration, avec sur ce bracelet plus de 80 incisions recensées, 60 filets ajoutés, et en plus d'une vingtaine de spirales rajoutées au-dessus de ça. La mise en place de référentiels techniques de gestes, elle nous permet de relire ces objets. Elle nous permet de revenir sur les productions. Pour vous montrer un peu où on en est aussi dans cette expérimentation, après 10 ans de travail, ce référentiel, il est toujours en construction, puisque si sur des objets comme celui-ci, on est capable de voir l'ensemble des gestes mis en place, mais on n'est pas capable de reproduire l'objet, parce que tout simplement, là, ce qui manque, c'est clairement des temps d'entraînement, des temps d'apprentissage pour faire et refaire, et puis surtout de le faire de plus en plus rapidement, c'est aussi une des questions qu'on a réalisées. C'est le temps d'exécution qui va tout simplement diminuer selon le temps d'exercice et d'habileté, bref. Mais sur des objets comme celui-ci, en fait, sur cet objet-là, même après 10 ans d'expérimentation, on n'est toujours pas capable de percevoir quels ont été les gestes mis en place par les artisans verriers gaulois. C'est-à-dire qu'il y a encore des objets dans leur décoration qu'on n'est toujours pas capable de lire grâce à notre référentiel de gestes. Donc, vous le comprenez, ce référentiel finalement, et je pense que ce qui c'était le plus intéressant dans cette expérimentation, c'est que si aujourd'hui, ce référentiel, il a été construit grâce à l'apprentissage de cet artisan verrier, Joël Claes, qui aujourd'hui travaille sur ces objets depuis une dizaine d'années. Et s'il s'est intéressé à ces objets, c'est parce que pour lui, c'était un véritable défi technique. Et dans le défi technique, dans cette idée d'essayer d'imiter ces bracelets, ça a été particulièrement instructif pour nous, parce que derrière les gestes, finalement, on a aussi pu mettre des temps d'apprentissage, des difficultés, aussi de faire les liens entre les différents apprentissages, entre les différentes techniques. Et c'est quelque chose que finalement, on n'aurait pas pu faire s'il y avait déjà eu une connaissance de ces techniques. Donc, le référentiel finalement, et c'est aussi la réflexion que je me faisais dernièrement, c'est un référentiel de gestes qu'on a documenté par la photographie, par la vidéo, mais c'est aussi un référentiel qui est particulièrement immatériel et qui se matérialise par actuellement un seul artisan, puisqu'on a un seul artisan qui est capable de reproduire ces objets et qui comprend le mieux techniquement ces pièces. Donc c'est aussi... je pense la mémoire de cet homme qu'il va falloir enregistrer le mieux pour les années à venir. Alors ce référentiel, je vais faire un petit retour sur les objets archéologiques, il nous a aussi permis de bien mieux lire la production celtique et son évolution. Et désormais, dans cette évolution, dans cette production, on est capable de voir l'évolution technique, et d'identifier aussi ce que Timothy Earle définissait comme des bottlenecks, c'est-à-dire des restrictions qui ne sont pas celles de l'artisan, mais plutôt de sa communauté, de son groupe ou des personnes qui contrôlent la production. Et la plus évidente que nous avons mis en avant, c'est à la fin de l'âge du fer, on perçoit désormais qu'il y a une véritable simplification technique de la production, avec un abandon total des formes complexes qui apparaît assez brusquement, une diminution par deux de la matière première. Donc là, il y a vraiment un choix de dire, bah, l'apprentissage, on le réduit. L'apprentissage, ça va être uniquement la fabrication du bracelet simple. On réduit la matière première, on réduit le temps de production des objets, et ça va aussi avec une augmentation quantitative des productions. Donc cette expérimentation, elle nous permet de mettre en évidence des choix qui sont aussi des choix économiques dans la production. Et on perçoit aussi des choix à certains autres moments qui sont vraiment des choix stylistiques, des choix artistiques liés au développement, par exemple, de l'art celtique. Donc, je passe rapidement sur ces questions puisque je n'ai pas trop le temps aujourd'hui et je vais continuer sur ce référentiel permis par l'expérimentation. L'expérimentation, donc, elle s'est faite en trois temps. Un, l'apprentissage du bracelet simple. Deux, l'apprentissage des décors. Et trois, la reproduction de ces techniques dans des conditions qui ont pu être celles des artisans verriers celtes. Aujourd'hui, on a construit 19 fours en terre chauffés au bois qui nous permettent de créer d'autres référentiels qui sont ceux des outils, des vestiges de fours et des déchets que l'on peut maintenant associer à la production, avec cet objectif qui va être bien sûr de pouvoir identifier les ateliers de verriers sur le terrain. Parce que je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas encore retrouvé d'atelier de verrier celtique. Aujourd'hui, après 10 ans d'expérimentation, je pense que finalement, ce n'est pas qu'on ne les a pas retrouvés, c'est que nous n'avions pas les référentiels pour les reconnaître. Et qu'aujourd'hui, cette expérimentation, puisqu'on a les gestes techniques, on a les outils, on a les structures de chauffe et on a donc une idée des vestiges que cet artisanat a pu laisser derrière lui. Donc, c'est un référentiel qui est encore à exploiter, notamment pour la recherche des ateliers sur le terrain. Et on a aussi, voilà, l'idée, c'est de mettre vraiment des images désormais sur ces ateliers dans les yeux des archéologues et de nos collègues de terrain pour dire, voilà, les vestiges des ateliers de verrier celtique, voilà à quoi ça a pu ressembler. Et on va, je l'espère, bientôt pouvoir retrouver et reconnaître ces ateliers. Alors, le référentiel, il est aussi à exploiter, et on en parlait tout à l'heure avec la céramique, autour des communautés, de la reconnaissance des communautés de pratique, puisque maintenant, l'identification des gestes, elle permet de travailler aussi sur la répartition spatiale des savoir-faire, d'identifier géographiquement les lieux, les différents savoir-faire et leur répartition à travers les objets dans l'espace européen, ce qui nous permet déjà, on commence à le percevoir, de voir des oppositions entre des communautés de pratique, des espaces de pratique qui s'opposent ou qui, au contraire, vont partager les mêmes savoir-faire. Alors, ces référentiels expérimentaux, ils ont aussi fait l'objet, été utilisés pour faire des référentiels archéométriques, puisqu'on a eu l'occasion de travailler sur des matériaux anciens et de travailler aussi sur les transformations que la production secondaire pouvait faire dans la composition du verre. Donc, on a utilisé ces expérimentations aussi pour les référentiels archéométriques et aussi finalement le référentiel de gestes, puisque on va pouvoir, je conclue, on va pouvoir à travers les gestes mieux percevoir ce qu'on doit analyser dans l'objet. Et enfin, je finis avec ce référentiel d'objet qui a aussi été créé par l'expérimentation, puisque aujourd'hui on est presque à 3000 objets produits qui vont nous permettre de réaliser des référentiels pour la tracéologie, pour revenir aux traces des objets archéologiques, ce qu'on a commencé à faire, et de valider nos hypothèses expérimentales et de travailler comme ça aussi, de continuer à exploiter ces référentiels. Voilà, je vous remercie de votre attention.